salut. Être la journaliste star qui apparaît régulièrement et depuis des années sur nos écrans. Être la journaliste qui incarne le débat politique à la télévision. Être la journaliste qu'on arrête dans la rue, qu'on interpelle sur les réseaux sociaux. Et puis un jour, quitter tout ça. Je me suis demandé comment on le vivait, qu'est-ce qui avait amené Esther Mamarbashi à se consacrer désormais au reportage, donc à être un peu plus loin des projecteurs du direct. Esther, je la connais pas très bien. Je sais qu'elle était exposée dans Infrarouge, parfois controversée sur son style, mais aussi respectée. Et ça, c'est probablement parce qu'elle est très rigoureuse. Et du coup, j'aimerais savoir quel regard elle a, elle, sur le journalisme d'aujourd'hui. On l'appelle ?
Oui, allô ?
Salut Esther, comment ça va ?
Salut Magali !
Tu vas bien ?
Ça va bien et toi ?
Oui, où est-ce que tu te trouves là à l'instant où on t'attrape ?
Alors, je me trouve dans une petite cabine au troisième étage de la RTS.
Parfait. Moi, j'ai une première question, c'est de savoir en fait si tu as aujourd'hui encore du plaisir dans ton travail de journaliste. Ça fait quelques années que tu fais ce métier.
Exactement, ça fera 20 ans au mois de juin que je suis à la télévision.
Donc 20 ans. Comment est-ce qu'on a encore du plaisir ? Est-ce que tu as encore du plaisir à faire ce métier aujourd'hui ?
Je pense qu'on ne peut pas faire ce métier sans plaisir. Je pense qu'il faut du plaisir, je pense qu'il faut de la passion. Et puis, précisément, parce que j'avais un peu moins de plaisir après 10 ans d'animation d'Infrarouge, j'ai décidé de quitter cette très belle émission que j'ai beaucoup aimée pour faire autre chose, que j'avais quasiment jamais fait, étonnamment, mais du reportage, parce que c'est vrai que j'ai très vite commencé à faire de l'antenne à la radio-télévision suisse et que donc, voilà, je viens au reportage à 50 ans, alors qu'en général, c'est plutôt le chemin inverse que font les gens, c'est-à-dire qu'ils commencent par le reportage, puis éventuellement après, ils font de l'antenne. Donc voilà. Voilà, c'est ce qui me guide dans ce métier. Je pense que c'est difficile de le faire sans passion.
Tu dis que tu as ressenti moins de plaisir à un moment dans Infrarouge, cette émission de débat que tu as menée pendant donc des années.
Presque 10 ans.
Voilà, c'est à quoi que tu as mesuré en fait que tout à coup ça baissait. C'était moins d'envie d'aller à l'antenne, c'était moins d'envie d'affronter, de faire débattre tous ces politiques. Il était où le curseur ?
C'était une forme de routine, c'était aussi une forme de lourdeur. Forcément qu'au bout du 4e, 5e, 6e débat sur l'assurance maladie, vous invitez les mêmes personnes, les mêmes gens, c'est les mêmes arguments, donc il n'y a plus de véritable surprise dans un débat. Ce n'était pas la lassitude de l'antenne, mais c'était plutôt ce sentiment, disons, d'avoir fait le tour d'une émission.
Et là, tu as un nouveau plaisir ? Tu as quelque chose d'autre qui tout à coup a émergé dans la manière de faire le journalisme ?
Alors, un nouveau plaisir, oui, et puis surtout beaucoup de choses à apprendre. Parce que c'est vrai que quand on a fait de l'antenne, le reportage, alors certes, j'avais fait un peu de reportage quand je travaillais pour le téléjournal, j'avais fait des petits reportages de 1 à 2 minutes, mais là, c'est vrai qu'on est sur des formats quand même relativement différents, donc une écriture différente. On raconte les choses différemment, il faut un petit peu plus de temps pour faire un reportage, donc c'est vrai qu'en général, les reportages de 12 à 13 minutes à mise au point, c'est 2 à 3 semaines de tournage et de montage. Et c'est vrai que c'est des choses qui s'apprennent. On doit aussi réapprendre, j'ai envie de dire, à travailler en équipe, parce qu'on est accompagné d'un caméraman en général et puis d'un preneur de son. Et puis, moi qui suis très impatiente de nature, comme vous pouvez peut-être l'entendre dans ma voix, c'est vrai que je dois apprendre à la patience, parce que ça prend un petit peu plus de temps qu'un débat. Moi, un débat sur la loi sur les armes, j'aurais probablement mis 1 semaine pour le mettre sur pied, puis voilà, là, il faut quand même 3 semaines, parce qu'il faut trouver les bonnes séquences. Je me suis baladée aux 4 coins de la Suisse, je suis allée à Zurich, je suis allée à Winterthur, je suis allée à Fribourg. Donc c'est une nouvelle façon de raconter une thématique qui prend en général un petit peu plus de temps.
C'est aussi important pour toi de pouvoir produire un reportage de A à Z aussi, au lieu, comme tu faisais certainement avant, moi j'ai envie d'avoir un reportage là-dessus pour illustrer telle thématique dans Infrarouge, tu donnes le bébé, tu peux encore varier un peu ce qu'on appelle les angles en journalisme, etc. Mais voilà, c'est fait, c'est pas toi qui gères tout ça. Tandis que là, maintenant, c'est à toi d'appeler les gens, de booker tes interviews et tout ça. Là, c'est quelque chose d'intéressant ou c'est un peu fatigant pour toi ? Parce que tu es impatiente.
C'est quelque chose d'intéressant, c'est parfois quelque chose qui m'impatiente un petit peu. Avant, quand j'étais infrarouge, disons, j'avais pas la maîtrise du sujet qui était diffusé dans l'émission, mais j'avais la maîtrise de l'entier de l'émission. C'était moi qui était non seulement l'animatrice du débat, mais aussi la productrice responsable de l'émission. Donc c'est vrai que, en plus, j'étais la responsable de l'émission. Là, non seulement je me trouve journaliste, mais en plus, je suis plus responsable. Donc, si tu veux, je dois en plus être aux ordres de mes producteurs, alors qu'ils, certes, évidemment, ont une façon de travailler plutôt horizontale. Donc, c'est vrai que la discussion et que le contact se passe bien. Mais je suis vraiment dans un autre rôle, puisque je fais du terrain et je ne suis plus non plus responsable de l'émission. Mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment du devoir accompli. Une fois qu'on a monté le sujet, moi j'aime beaucoup le montage parce que toutes les difficultés du tournage, ben voilà, on les a oubliées. Et puis on crée véritablement quelque chose avec le monteur ou la monteuse. Et ça, c'est vrai que c'est une période que j'aime beaucoup. Et une fois que tout ça est sous toi, je hurle en général dans le box de montage parce que je trouve que c'est vraiment ça ponctue des semaines quand même d'efforts.
Donc, si je comprends bien, ça, c'est un nouveau plaisir pour toi parce que c'est aussi un nouveau métier. Il est moins dans la lumière, mais quand même, quand tu arrives sur un tournage et que tu rencontres les gens, ils te reconnaissent, j'imagine.
C'est vrai. Alors, c'est vrai que je profite beaucoup aussi de ma notoriété. C'est vrai qu'il faut que je l'admette. D'ailleurs, j'ai quelques collègues qui sont un petit peu jaloux parce que quand je mets, par exemple, je cherche des témoignages, ça m'est arrivé assez régulièrement de chercher des témoignages sur Facebook. Par exemple, je poste un message sur Facebook et c'est vrai que je mets facilement, en fait, mon adresse mail. Et c'est vrai que j'ai régulièrement pas mal de retours. Donc, c'est vrai que ça me facilite un peu ce contact, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même avec les gens en général. C'est vrai que quand je les appelle, quand je leur dis voilà, Esther Mamarbashi, ils savent plus ou moins qui je suis et c'est vrai que ça facilite le contact. Parfois, c'est pas forcément un avantage parce que, en fait, les gens, je me suis rendu compte que parfois ils ont juste envie de vous voir. Ils n'ont pas grand chose à raconter, donc ils acceptent le rendez-vous. Mais dans le fond, c'est plus pour vous voir, pour faire un selfie avec Esther Mamarbashi que pour raconter une véritable histoire. Donc voilà, parfois c'est un petit peu à double tranchant, mais c'est vrai que ce qui est aussi sympa, c'est que les gens me voient aussi différemment. Ils me disent finalement vous êtes plutôt sympathique, parce que c'est vrai que parfois infrarouge on trouvait que vous étiez un petit peu dur, un petit peu sèche, mais dans le fond vous êtes quelqu'un d'assez normal et d'assez sympathique. Et puis parfois,
et ça tu l'apprécies qu'ils te disent ça?
Voilà quoi, enfin j'ai envie de dire, je suis pas que le produit de ces 10 années d'infrarouge qui ont fait ce que j'ai été pendant près de 10 ans, parce que c'est vrai que l'animation de débat implique, disons, qu'on fasse avancer le débat, qu'on suscite des interactions, et pour cela, il faut une forme, disons, de maîtrise du débat qui passe parfois par une forme peut-être de dureté ou de rigidité, j'ai envie de dire, mais je pense que c'est pas ma nature profonde, mais c'est plutôt l'exercice qui veut ça. Ou en tout cas, c'est comme ça que j'ai conçu l'animation des débats.
Ah, alors ça veut dire aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de... T'en as essuyé des critiques, des commentaires, etc. sur ce fait que tu étais très dure peut-être à l'antenne, enfin c'est des choses que tu as pu entendre. Ça veut dire que c'est une signature que tu avais toi construite pour justement... c'est Esther Mamarbashi qui présentait Infrarouge, elle était comme ça. C'est quelque chose que tu avais même travaillé, consciemment ou non ?
Non, j'ai pas construit, j'ai pas travaillé, mais j'avais un rôle. Et je pense que quand on anime un débat, un débat contradictoire, puisque c'est en général le cas à infrarouge, il faut, et qu'on a envie de partir d'un point A pour arriver à un point, disons, D, il faut que les choses progressent d'une certaine façon. Et si vos invités ne répondent pas à vos questions, il faut les relancer, il faut les coincer, il faut les presser. Et que l'idée aussi, c'est qu'il y ait des gens qui se répondent. Donc, vous mettez un peu d'huile sur le feu pour que précisément ce ping-pong se fasse. Et moi aussi, j'avais... j'ai pas construit, si tu veux, Magali, j'ai pas construit ça. Mais c'est vrai, c'est l'exercice qui veut ça. Moi, quand je présentais... Cela étant dit, on peut regarder aussi qu'Alexis, aujourd'hui, qui anime très bien les débats, a un style complètement différent. Donc, je suis aussi ça. Moi, depuis que je fais du journalisme, on m'a dit que j'étais quelqu'un de très sérieux. Alors oui, je suis quelqu'un de très sérieux. Je travaille énormément, je bosse énormément les dossiers. Donc c'est voilà, c'est quelque chose que j'assume aussi. J'assume aussi que parfois je peux être un peu cassante, un peu raide. Mais parce que j'ai besoin d'être comme ça pour faire avancer le débat. Donc voilà, si vous me mettez dans un autre rôle, par exemple là, comme journaliste de terrain, je ne crois pas qu'on va vous dire que je suis cassante, que je suis sévère, etc. Parce que ben, voilà, vous pouvez faire du reportage sans forcément passer par là. Je veux dire, dans un débat, quand il y a des points de vue extrêmement différents, il faut les tenir, ces débatteurs. Et voilà, ça demande une concentration aussi, ça demande une énergie. Donc voilà.
Mais dont tu avais aussi marre, quelque part. C'est aussi ça, toute cette tension-là. Quand tu nous racontes cet épisode-là, tout à coup, on sent que t'es beaucoup plus... ça s'entend à la voix, que t'es beaucoup plus ramassée comme ça, que t'es beaucoup plus tendue aussi. Ça aussi, à un moment donné, hop, fallait passer à autre chose. Et puis, laisser peut-être percevoir cette autre personnalité, quoi.
Disons que j'étais un peu fatiguée, j'étais un peu lasse, mais j'avais surtout, disons, le sentiment d'avoir fait le tour de l'émission. Donc, puis comme j'avais un formidable collègue, Alexis Favre, qui était d'accord de reprendre l'émission, je la lui ai transmise avec beaucoup de joie, puis le sentiment du devoir accompli quand même.
On va s'améliorer. Les cheveux, il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'ils sont bien coupés. Hein.
Alors, Josette a 74 ans et elle aimerait à nouveau partager sa vie. Pour cela, elle a décidé de tenter une nouvelle expérience.
Comme on va aller au speed dating, on va se faire un petit peu les lèvres, hein. Pour avoir une belle bouche.
Émission mise au point, septembre 2018.
Nous avons rencontré Josette chez elle à Bulle, où elle vit à la retraite depuis qu'elle a quitté son dernier travail, tenancière de bistrot. Sa vie a été bien remplie, avec souvent beaucoup d'hommes, de maris, de fils et de très nombreux amants. Le dernier, c'était il y a 5 ans. Après, rien de très sérieux.
Le monde politique, toi, tu le considères comment? T'en as eu un nombre impressionnant de ces politiques hommes ou femmes qui sont venus débattre chez toi ou que t'as pu recevoir au téléjournal. Mm-hmm. C'est des amis, c'est des ennemis, c'est juste des invités. Tu les considères comment?
C'est des politiciens. C'est pas des amis, c'est pas des ennemis. C'est des politiciens invités. En l'occurrence, donc moi j'ai toujours quand même essayé de garder une distance avec mes invités. Je pense qu'elle est assez fondamentale, même si le microcosme bernois ou le microcosme, j'ai envie de dire, de la Suisse romande est quand même relativement petit. Donc c'est vrai que au bout d'un certain temps, vous avez par la force des choses des rapports assez étroits avec les gens.
Des objets d'étude en fait, presque.
Bah, disons que c'est des partenaires, en tout cas, essentiels ou indispensables pour quelqu'un qui anime un débat. Donc c'est vrai que si vous voulez, vous devez quand même être dans les bons papiers des politiciens pour qu'ils acceptent de venir sur votre plateau. Mais d'un autre côté, eux aussi ont besoin d'être vus. Donc voilà, c'est du win-win, j'ai envie de dire, hein, surtout en période d'élection fédérale. Mais donc la question, c'était amis ou ennemis? Non, ce que je faisais en tout cas à tous les débats, c'est que moi je ne vais jamais saluer les gens avant mon débat. Donc c'est des gens avec qui j'ai parlé au téléphone et que je retrouve en plateau. Donc c'est-à-dire je ne veux pas qu'il y ait ce moment comme ça d'intimité où on profite encore d'influencer un petit peu, de glisser un petit truc pas très sympa ou plutôt sympa pour espérer que l'animateur journaliste soit pas très méchant en plateau. Donc voilà, moi j'accueillais, je laissais en général arriver les gens en plateau et puis telle la star, j'arrivais au dernier moment et je les saluais à ce moment-là. Vous les vousoyez toujours, j'évite toujours de faire la bise à l'un ou l'autre que je connais particulièrement bien. Donc voilà, là c'est très important de vraiment garder une forme de distance. Et tu sais, pardon Magali, mais en fait j'ai envie de te vousoyer parce qu'en général quand les gens font une interview, je dois toujours vousoyer, donc j'ai pas l'habitude de tutoyer. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en général c'est beaucoup plus difficile d'avoir en plateau quelqu'un que tu connais bien. Il y a l'un ou l'autre politicien d'ailleurs que je connais, pas forcément de son expérience politique, mais que je connais déjà d'avant. Et c'est vrai que c'est, en général on est plus dur avec les gens qu'on connaît qu'avec les gens qu'on connaît pas. Donc j'ai toujours, en tout cas, et ça aussi c'est quelque chose, je pense, qui me guide aujourd'hui, c'est une forme d'honnêteté intellectuelle, d'honnêteté journalistique, le fait de ne pas avoir d'œillères. le fait de voilà de pas du tout avoir un regard dogmatique sur les choses. Moi, je suis parfois très choquée de voir que qu'il existe des collègues, quelques-uns, pas beaucoup, mais qui sont très dogmatiques comme ça sur les choses. Et je trouve que le meilleur ou la meilleure journaliste, c'est vraiment les gens qui ont pas d'œillère et qui essayent vraiment de voir la situation telle qu'elle est et de la décrire au mieux, sans parti pris.
Donc toi, tu ne te sens pas, contrairement peut-être à d'autres, confrères, consoeurs, collègues, imprégné d'une mission spéciale par rapport à ton métier, si ce n'est, de ce que j'entends, celle de rendre compte des faits, de mettre en concurrence, en débat des idées. Voilà, c'est ça.
Moi, je trouve que le métier de journaliste est totalement incompatible avec celui de politicien. Hein. Il y a quelques exemples de journalistes qui se sont recyclés en politicien ou politicienne. Pour moi, c'est deux choses qui sont totalement incompatibles. De même, je pense qu'on ne peut pas animer, par exemple, un débat comme Infrarouge et, par ailleurs, avoir une activité d'éditorialiste. Hein. On connaît quelques journalistes comme ça, animateurs d'émissions qui font beaucoup de... qui prennent position au niveau politique. Et moi, je pense qu'il faut choisir son camp, quoi. Je pense qu'on peut être éditorialiste si on est rédacteur en chef, par exemple, et qu'on signe un édito dans Le Temps ou qu'on signe un édito sur le plateau du 19h30 parce qu'on est rédacteur en chef adjoint. Mais enfin, voilà. Sinon, si on est journaliste, moi, je ne peux pas, disons, faire un sujet sur la loi sur les armes et puis me profiler comme tireuse du dimanche. Ou signer un édito pour dire « Vive les armes » ou « Abat les armes ». Donc voilà, je pense qu'il y a une crédibilité journalistique à garder, à avoir, et que donc, même si on a des positions par rapport à certains sujets, il faut les garder pour soi, jusqu'à ce qu'on soit autorisé, dans le fond, à être éditorialiste ou pas.
Dans les attaques que subissent les médias aujourd'hui, au sens général, et en plus particulièrement peut-être le service public, toi, tu vois des choses qu'on aurait justement pu faire. Parfois des glissements, des manières d'aujourd'hui de faire son métier, des pratiques qui peuvent aussi donner le flanc à la critique. Comment tu vois justement la manière dont ce métier est en train d'évoluer?
Je vais juste... Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler, donc je vais refuser l'appel. Voilà. Alors, les faits et le commentaire, hein, c'est un peu ce dont on parle. C'est vrai que moi, j'ai été formée à l'Agence Télégraphique Suisse comme journaliste et que donc là, on apprend véritablement à séparer les faits du commentaire. Donc c'est vrai que c'est aussi quelque chose que je continue, disons, à porter. Est-ce qu'on aurait des faits, des choses fausses et donc prêter le flanc à la critique? C'est ta question, Magali.
Est-ce qu'on est critiquable? C'est peut-être tout simplement ça. Est-ce qu'on peut être quand même critiquable? Est-ce qu'on accepte ces critiques? Est-ce qu'il y a des choses où on n'arrive pas à faire comme il faudrait faire? Est-ce que voilà.
Alors, je pense que oui et non. C'est-à-dire que oui, parce que il faut quand même constater que parfois il y a une forme de mainstream. Donc, on dit un peu tous la même chose, c'est-à-dire qu'on est un peu mouton. Il y a l'effet boule de neige. On interroge, on va toujours vers les mêmes. Ça, c'est un travers qu'on pourrait avoir. Donc, je pense qu'il faut en être conscient pour précisément ne pas tomber dans ce travers. Mais voilà, je ne dis pas qu'on fait tout juste. Mais enfin, je veux dire, par exemple, la façon dont on a couvert la campagne Nobilag, moi, je pense qu'on a été assez irréprochable. Alors, je pense que notamment, disons, c'est au débat qu'on a fait Infrarouge, au débat au pluriel qu'on a fait Infrarouge, c'était pas évident, hein, d'inviter sur nos plateaux, à l'antenne, dans plein d'émissions de la RTS, des gens qui étaient extrêmement critiques et qui, si on les avait suivis, auraient mis, disons, notre employeur dans une situation extrêmement difficile. Voilà, je pense qu'on peut être fier quand même de la façon dont on a couvert, par exemple, cette thématique. Il faut qu'on soit conscient du travers dans lequel on pourrait tomber. Et puis, je crois qu'il faut toujours qu'on essaye précisément d'oublier nos dogmes, d'ouvrir grand nos yeux, nos oreilles, et d'être attentif à ça. Mais il ne faut pas se reposer sur nos lauriers.
Toi, à titre personnel, tu te souviens d'une erreur, d'erreurs que tu as pu faire et de la manière dont tu les as gérées?
Non, pas... J'ai probablement fait des erreurs. Je sais pas, peut-être qu'il m'est arrivé comme ça de faire des erreurs dans des éléments d'information que je donnais dans un débat, par exemple. Et j'ai des gens qui m'ont écrit, et puis j'ai répondu, puis je me suis platement excusée.
De te dire que peut-être des invités, un débat, t'aurais pas dû le faire ainsi, ou c'est plutôt des choses
oui.
qui rongent, parce que voilà, des...
Voilà. Ouais. Mais disons que je me suis excusée plutôt auprès de l'un ou l'autre téléspectateur, mais je me souviens pas, disons, d'avoir fait de gros couacs qui aient impliqué, disons, des excuses, par exemple, ou des rectifications à l'antenne. Mais c'est vrai que je suis très preneuse de remarques, et puis je veux dire, j'admets assez facilement que je me suis trompée si c'est le cas. Je voulais juste dire sur Nobilac, sur cette initiative, sur cette campagne, que moi, personnellement, j'avais trouvé cette campagne extrêmement dure. Magali, tu me demandais si les critiques dont j'ai été l'objet m'ont heurté, m'ont marqué. Pas tellement, mais c'est vrai que sur Nobilac, alors je sais pas si c'était l'effet un peu comme ça de lassitude aussi, mais moi j'ai trouvé d'une virulence cette campagne incroyable sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que ça m'a aussi appris à relativiser ce qui se disait sur les réseaux sociaux, parce que quand on lisait les réseaux sociaux, on avait l'impression qu'il y avait 80% de nos téléspectateurs qui étaient en faveur de cette initiative et donc contre la RTS, et au final ça a été la proportion inverse. Mais c'est vrai que moi j'ai trouvé ça très dur, et là j'ai véritablement eu le sentiment qu'on remettait profondément en cause notre métier et la façon dont on le faisait et dont je le faisais. Et franchement, je me suis demandé si j'allais pas arrêter le métier durant cette campagne, parce que j'ai trouvé ça injuste. J'ai trouvé ça très dur, mais j'ai trouvé ça très injuste, très très injuste, parce que précisément, encore plus à ce moment-là, on essayait de bien faire notre job, et c'était pas facile. Et donc voilà. Ouais.
Et qu'est-ce qui t'a redonné espoir? C'est les résultats?
Peut-être. Ouais, peut-être. Moi, je sais pas. C'est vrai que la votation est passée. Et puis, il y a eu ces résultats quand même extrêmement étonnants que personne n'avait vu venir. Hein, même pas nous, même pas les sondages. Donc, c'était peut-être précisément le revers de la médaille. C'est-à-dire qu'après avoir été énormément critiqué, il y a eu une mobilisation dans le camp des partisans, je dirais, du service public. Et puis... ça m'a confortée dans le fait que, dans le fond, probablement qu'on fait quand même relativement bien notre métier, ou qu'on n'est pas complètement inutile. Ce qui a aussi été très désagréable dans cette campagne, c'est qu'il y a quelques politiciens qui ont vraiment fait du chantage en disant « Ah, mais alors, si vous faites ça, si vous dites ça, moi, je ne vais pas vous soutenir dans la campagne Nobilac. » Il y a eu quelques expériences qui étaient un peu moches. Ouais, j'ai envie de dire qui étaient un peu moches, qui n'étaient pas très belles. Donc voilà. Ouais.
Monsieur Rim, un franc par jour pour regarder infrarouge, par exemple. Et puis ce soir, il y a aussi sur RTS2 un match important, Real Madrid-PSG. Un franc par jour pour ça. Est-ce que c'est cher payé?
Alors écoutez, sur le franc par jour, c'est plutôt le sujet de Monsieur Youtse.
Infrarouge, février 2018, débat sur l'initiative Nobilac.
Moi, c'est les milliers de francs que les entreprises vont payer. Alors que si vous faites le tour de mon entreprise, vous verrez personne... qui regarde la télévision ou qui écoute la radio. Peut-être quand Roger Federer joue, c'est possible qu'il y ait une exception.
Mais si c'est pour Roger, qui
me garantit, Monsieur Vernick, que dans 2 ans ou 3 ans, les matchs de PSG, Real Madrid ou les autres sports seront toujours sur la télévision d'État? Ça, je suis pas sûr. Moi, j'aime le hockey. Vous, Madame Amarbachi, j'imagine que vous aimez le hockey comme fribourgeoise.
Mais bien sûr, je suis Gauthéron comme vous.
Si vous voulez voir Gauthéron les matchs en live, vous êtes sur la TV payante MyTV.
Combien vous payez
9 francs par match ou 30 francs par mois? Je paye 30 francs par mois, je suis abonné.
Ça fait 30 francs par mois, je crois que vous payez 25 francs même.
Bah 25 francs.
Ouais, 25 francs.
C'est mes enfants qui m'ont abonné,
mais ça fait quand même 300 francs par année, monsieur Rim.
Oui.
Ce métier-là que tu pratiques aujourd'hui, mise au point infrarouge et tout, tu as le sentiment que tu le ferais de la même manière dans un autre média qui est un média privé? Le métier serait différent ou pas?
Non, le métier n'est pas différent. Non, je pense que, je veux dire, les valeurs qui me guident aujourd'hui sont exactement les mêmes qui me guidaient, que ce soit l'Agence des graphiques suisses, au Temps ou au Journal de Genève. Je pense qu'on pratique, j'espère en tout cas, qu'on a tous les mêmes valeurs. Moi, quand j'étais au Journal de Genève, quand j'étais au Temps, il m'arrivait de faire des commentaires. Dans la rubrique dédiée aux commentaires, je faisais parfois... J'ai eu le grand honneur de parfois pouvoir signer des éditos dans le journal de Genève. Et voilà, c'était un éditorial, c'était un point de vue, mais dans mes papiers, je veux dire, je séparais très clairement les faits du commentaire et j'essayais en tout cas de tendre à la même objectivité dont je vous parle. Donc moi, quel que soit le support, le média, j'ai toujours eu les mêmes réflexes. Et d'ailleurs, quand on avait Mix et Remix qui faisaient des dessins en fait pour en direct hein, durant nos débats, des dessins qu'on publiait à l'antenne, il nous arrivait une fois de nous dire ouh là là, mais alors ces dessins on peut surtout pas les mettre à l'antenne, on va les mettre sur les réseaux sociaux, et mal nous en a pris parce que ça nous a valu une petite plainte de quelqu'un dont je tairai le nom. Et donc on a vu là à nouveau que, je veux dire, les mêmes règles s'appliquent partout, quel que soit le support, que ça soit à l'antenne, que ça soit sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça a été aussi une belle leçon de journalisme. Donc non, voilà. Donc mon métier, moi, je le pratiquerai de la même façon ailleurs.
Dis-moi, quand j'ai fait juste quelques petites recherches sur toi, je tombe évidemment sur ta page Wikipédia. Tu as une page Wikipédia, je ne sais pas si c'est toi qui l'as...
Non.
Si tu es, voilà. Mais il est noté. C'est qui l'a faite, tu le sais?
Je ne sais pas, j'ai aucune idée.
Ah ouais, un fan,
non,
une fan.
Je peux savoir.
Oui, on peut savoir. Mais il est noté, par ailleurs, que tu avais suivi des cours de comédien, enfin, que tu avais suivi une formation avec Gisèle Salin quand tu étais à Fribourg. C'était dans quel but? Enfin, quel est le lien avec aujourd'hui?
Non, mais j'étais au collège, et voilà, et comme beaucoup, j'ai fait des cours de théâtre, ben déjà au collège, à Sainte-Croix, à Fribourg, et puis après, ben, elle débutait comme prof au conservatoire à Fribourg, et donc, ben voilà, j'ai suivi ses cours. Dans quel but? Ben, j'aimais ça, j'aimais probablement la scène déjà, et puis ben, au moment de choisir mes études, j'ai beaucoup hésité entre les sciences politiques et le théâtre, mais comme j'étais quelqu'un de sérieux et de raisonnable, tu vois que ça me colle à la peau, ben, j'ai pris la voie la plus classique, donc l'université et les sciences politiques, plutôt que de partir à Strasbourg ou à Bruxelles où il y avait des très bonnes écoles de théâtre. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai arrêté, le théâtre, que j'ai peut-être un peu retrouvé voilà, en faisant de l'antenne. J'ai un peu réconcilié mes deux passions en faisant de l'antenne et du débat en particulier.
Mais le fait de te mettre en scène, justement, ça allait de soi. Toi, t'es sereine avec ton image, justement, avec la manière, avec ce que tu projettes. C'est quelque chose avec lequel tu vis bien.
Je ne fais pas partie des gens qui... Oui, je vis relativement bien avec mon image. Je vis mieux avec mon image à infrarouge qu'avec mon image, par exemple, au téléjournal, parce que je pense que le téléjournal, c'est un exercice qui est extrêmement cadré et que donc il y a très peu de place à la spontanéité, et que je pense que je me suis jamais véritablement habituée au prompteur au 19h30 et que donc du coup l'exercice du débat m'était plus naturel, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas de prompteur, parce que notre personnalité peut-être ressort un petit peu plus.
Et là, d'apparaître moi dans Mise au point, tu le vis un peu comme un manque. Il y a quand même quelque chose qui manque par rapport à ce fait-là d'être à l'antenne, du stress et tout ça, quand même un peu.
Un petit peu, ouais. Quand j'ai décidé de quitter Infrarouge, Bernard Rapin, mon rédacteur en chef, m'a dit « Mais est-ce que l'antenne ne va pas te manquer ?» Parce que j'ai connu des gens qui ont totalement déprimé après avoir arrêté l'antenne. Je lui ai dit « Mais non, il n'y a pas de souci, Bernard. » Et c'est vrai que je dois avouer que ça me manque un petit peu. Cette adrénaline du direct, même si on n'était pas tout le temps en direct à Infrarouge. Mais c'est vrai que c'est quand même assez constitutif de mon ADN hein, de journaliste, puisque j'ai quand même fait énormément d'antennes et beaucoup moins de reportages. Hein. Ça fait même pas un an que je fais du reportage. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion aussi d'animer la discussion débat de la soirée commémorative des 50 ans de temps présent. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même sympa.
Donc, en même temps, il n'est pas interdit de penser que tu pourrais y retourner de manière plus régulière. D'ailleurs, t'es bien avec ce que tu fais maintenant. T'es quelqu'un qui se projette tout le temps sur l'après ou tu te laisses aller là, cette personne qui est tellement impatiente.
Mon fils m'a dit que je devais davantage vivre l'instant présent. Donc j'essaye de faire un énorme effort sur moi-même et d'essayer davantage d'être dans le moment présent plutôt que toujours me projeter dans l'avenir. Donc voilà. Mise au point, c'est un gros travail sur moi quand même.
Si vous voulez découvrir les reportages d'Esther Mamarbashi, rendez-vous le dimanche dans Mise au point sur RTS1.